Vous êtes bien au deuxième étage à gauche en sortant de l'ascenseur. Entrez dans le Loft Musique sur Sud Radio.
En ce dernier jour de la semaine, vu qu'ils ont travaillé d'arrache-pied, je propose au Mont un week-end de congé prolongé. Tiens d'ailleurs, étrange cette expression d'arrache-pied. Enfin, pas tant que ça, car c'est la métaphore de l'effort. L'effort que certains mots doivent faire pour s'arracher à la terre sédentaire, à la gravitation. Voilà l'explication. Non mais, après tout, quand on y pense, pourquoi les mots ne prendraient pas de vacances? Alors, en tête de cette manifestation pour obtenir satisfaction, en première ligne de ce cortège de revendications, et ce n'est pas un détail, c'est le mot « travail ». Le travail, entre parenthèses, vient du latin tripalium, qui était, je vous le donne en mille, un instrument de torture composé de trois pieux. Donc, étymologiquement, dans le travail, eh ben, ça fait mal d'être heureux. Ah ben, ou alors, faut être maso, quoi. Passez-moi le mot. C'est QFD. Allez hop, les mots. Justement, vous récupérez vos affaires, la cloche a sonné, je vous libère. Maintenant. Enfin tous, sauf les 8 de garde, évidemment, qui resteront consignés ce week-end au couvent. Ils sont au courant, mais je les rappelle à l'instant. Alors il y a solaire, vélo, crème, rosé, rien, grasse, piscine et matinée. Voilà. Et tous les autres, eh ben vous êtes libérés.
Sud Radio, Loft Music,
Yvan Cugios.
Eh ben voilà, faut oublier personne. Tout le monde a droit à son week-end de repos, même les mots. Et voilà, ils sont libérés. Vous êtes reconnus, les mots. Hein. Vous pouvez maintenant voilà, partir et revenir lundi soir. J'aurai besoin de vous, juste en début d'émission du Loft Musique. Merci d'être avec nous dans ce Loft qui revient vous voir tous les soirs en direct sur Sud Radio. Nous finissons la semaine en beauté aujourd'hui. 0826 300 300 pour nous téléphoner, pour participer aux discussions, aux hommages, à tous les échanges qu'on a plaisir à vous proposer tous les soirs en direct sur Sud Radio. Notamment cette discussion qu'on aura avec l'ami Jacques Pessis de la famille Sud Radio, bien sûr, où nous reviendrons sur la disparition de Guy Bedos il y a quelques heures. Et puis, côté chansons, nous accueillerons quelqu'un que vous avez forcément connu parce que vous avez entendu à un moment donné ce titre. Il s'appelle Guillaume Grand, Toi et moi.
On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles, dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va.
Guillaume Grand, il sera dans le Loft Music, il revient, Guillaume Grand, après voilà, quelques années sans contrat de maison disque, où il a continué évidemment à faire de la musique. On en fait sans avoir des contrats en maison de disque, hein, de la musique, mais il nous expliquera comment ce retour s'amorce, avec aussi également un roman qui est à venir. Et en parlant de roman, on va accueillir une artiste multiple. Elle écrit des chansons, elle compose, on dit plus sérieusement auteur, compositeur, autrice, compositrice, je ne sais pas comment on dit, on lui demandera. Autrice, ce n'est pas joli. Auteuse non plus. Autrice, je garde. Compositrice, interprétrice, interprète et chanteuse, actrice, réalisatrice et donc romancière pour la première fois, puisqu'elle sort aux éditions Jean-Claude Latte, La Commode au tiroir de couleurs. Ce sera le 3 juin 2020. Olivia Ruiz dans le Loft Music.
Écorcher mon visage, écorcher mes genoux.
Olivia Ruiz, ce soir dans le Loft Music, vous pouvez, je vous le redis, composer le 0826 300 300 pour parler à nos invités, pour échanger, pour nous faire part voilà, de vos découvertes, peut-être artistiques, musicales, cinématographiques, ce qui vous fait plaisir. Et puis aussi, vous branchez sur les réseaux du Loft Music et de Sud Radio, Facebook Live, pour voir eh ben, les têtes qu'on a. Allez, on a Olivia Ruiz. Juste après l'écoute, la réécoute de ce titre, La Fille du Vent, extrait de son album La Femme Chocolat, qui était sorti en janvier 2005. Ah, ça fait un bail déjà, ça passe vite. La Fille du Vent, Olivia Ruiz, en direct dans le Loft, maintenant.
Si j'ai du caractère, un sacré tempérament, qui ont valu à ma mère du souci et des tourments, c'est que j'ai dans les artères le tanin et les pigments qui font le sang de la comme la lave d'un volcan. Je suis la fille du vent, j'irai de l'avant sans écouter de mon père les avertissements. C'est que comme ma mère, j'ai reçu en naissant la lueur de l'éclair, la force du vent. Moi qui suis sa fille, je porte la folie des belles de Castille ou bien d'Andalousie. Je pointe mes bandes et ris face au danger de la vie. Je tiens de ma famille ce qu'aujourd'hui je suis.
La fille du vent, Olivia Ruiz, extrait de La Femme Chocolat, sorti en 2005. Si j'ai du caractère, un sacré tempérament, etc., etc. Mon Olivia Ruiz, à force de dire que tu as un caractère bien trempé, un sacré tempérament, on va finir par le croire. Salut Olivia.
J'adore le texte de cette chanson. Je me permets de le dire parce que c'est pas moi qui l'ai écrite, celle-là pour le coup. C'est le chanteur d'un super groupe de chez nous qui s'appelle Block H, un groupe de punk qui était assez connu dans les années 90-2000. Et bon, voilà, on voit qu'il me connaît très bien, le garçon qui écrit cette chanson, parce que il raconte bien l'ado que j'ai pu être. Ouais.
Est-ce que finalement, Olivia Ruiz, est-ce que tu me fais penser à cette question? Est-ce que quand on a comme ça une cohérence, une évidence à travers un texte qui n'est pas de soi, quand on a demandé à quelqu'un d'écrire et qu'on a cette sensation de l'avoir presque écrit soi-même, est-ce que c'est peut-être plus fort que quand on est l'auteur soi-même du texte? Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Quand on demande à quelqu'un, c'est encore plus fort, tu crois?
Ah, mais bien sûr. Moi, personnellement, j'ai jamais eu le grand frisson en écrivant un texte. Alors que je l'ai eu en recevant des chansons. Par contre, les années passant, c'est vrai que je n'arrive plus à chanter les mots d'autres que les miens.
Ça, c'est intéressant.
J'ai des coups de cœur pour des chansons qu'on a envie de m'offrir et que j'adore. Et puis, comme on dit, j'ai du mal à me les mettre en bouche et les faire amis. Peut-être que ce sont des gens moins proches aussi qui m'ont...
Oui, mais t'as constaté, c'est arrivé à un moment particulier, ça? Tu sais l'analyser? C'est arrivé quand, en fait, ça, cette sensation?
Après La Femme Chocolat, déjà sur Miss Météor, puisque à l'époque, on avait fait des chansons à deux avec Mathias sur La Femme Chocolat.
Mathias Malzieu, bien
vraiment,
sûr. Ouais.
Voilà. Et puis c'est vrai que sur le troisième album, Miss Météor, j'avais fait tous les textes et ça a été une espèce d'évidence. Je calmais la tempête, pareil, mon corps, mon amour aussi, à nos corps aimants. Donc je sais pas, ouais, c'est une petite mécanique comme ça, c'est des moments, après peut-être que ça reviendra. Cet immense plaisir de découvrir une chanson qui nous semble taillée comme un petit costume sur mesure.
C'est bien
plus fort que de finir une chanson et de se dire ouais, super.
Olivia, oui, c'est cool que tu sois avec nous sur Sud Radio dans ce Loft Music en direct. Et tu parles d'évolution, finalement, on parle de cet album La Femme Chocolat et puis de l'évolution et puis de la suite, Miss Météor et compagnie. Et finalement, cette actualité qui est la tienne avec ce roman, La Commode au tiroir de couleurs, qui sort le 3 juin chez Jean-Claude Latte, et finalement la suite de l'histoire, et même la suite précisément de cette. Alors, je ne sais pas comment appeler ça, spectacle musical, vol vert, comédie musicale, parce que j'ai aligné toutes tes qualités, j'aurais pu mettre dans danseuse finalement aussi, parce que tu as un peu dansé ce spectacle Vol Vert. Hein, et puis tu as travaillé pour danser même.
Ça a été un challenge énorme que m'a donné Jean-Claude Galota, mais que j'ai adoré relever. Oui, Vol Vert, c'était une tragédie musicale où effectivement j'étais plutôt aux commandes de l'écriture et où très vite l'histoire est partie vers celle de l'exil À, voilà, à mon initiative, ce qui était une évidence de toute façon, puisque, comme son nom l'indique, Jean-Claude Galota est issu de l'immigration, lui, italienne. Donc, voilà. Et la commode, c'est vrai que c'est une sorte de continuité, tout comme Bolbert était la continuité des chansons qui apparaissent sur chacun de mes disques et qui parlent de ce devoir de mémoire, de cet héritage, de, du non-dit, de la beauté et du poids de la famille. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours là.
On n'écrit qu'une seule chose finalement, non ? Quand on décline à travers voilà, les images qu'on peut trouver sur une écriture de roman ou sur un spectacle musical ou dans une mise en scène, on écrit toujours la même chose, tu crois ? Sa vie finalement, Olivia Ruiz ?
Alors en l'occurrence, moi pour la commode, c'est pas vraiment ma vie, c'est vraiment un fantasme, ce roman, au contraire, un fantasme sur le silence fait sur l'histoire familiale qui a amené chez moi cette nécessité de m'enraciner par le biais d'une fiction avec des femmes que j'aurais aimé connaître, avec des femmes que j'avais pu rencontrer dans les films d'Almodovar ou dans les romans de Ruiz Zafón, même s'il y a surtout des gars quand même. Enfin, donc voilà, il y a une espèce de logique d'en arriver là, mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours la même histoire, mais en tout cas, on a, comme on parle avec des émotions qui nous sont propres et qu'on habille les personnages qu'on peint avec des émotions qu'on connaît, forcément, on est toujours ce gros tas d'émotions entremêlées qui va les distiller au personnage qu'il va construire. Donc oui, on est toujours soi. Enfin, à partir du moment où on est toujours soi, on écrit peut-être effectivement toujours ou en tout cas, on démarre une œuvre au moment de sa première création et on la termine
au
moment de son dernier souffle, oui.
Après, quand il y a eu Olivia Ruiz, comme dans ta famille et dans plein de familles qui ont été déracinées, ce traumatisme très fort, c'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie, certainement une influence sur voilà, les ascendants, les aïeuls qui voilà, viennent influencer certainement son propre caractère, son propre tempérament. Et il y a certainement peut-être une nécessité plus forte dans ces trajectoires familiales d'aller chercher des réponses que dans d'autres.
Bien sûr, et d'ailleurs on note que souvent c'est en deuxième génération, ce ne sont pas les enfants de migrants qui vont avoir besoin de retourner vers ses racines et de comprendre quel est leur passé familial, mais plutôt les petits-enfants. C'est quelque chose d'étrange qui raconte une digestion lente quelque part aussi. Effectivement, c'est une nécessité qu'on retrouve chez presque toutes les ethnies qui ont connu un grand voyage, puisque le grand voyage, il se mesure pas au nombre de kilomètres, mais à cette amputation qu'est le déracinement forcé.
Alors Olivier, ça sort la commode au tiroir de couleurs le 3 juin 2020 et c'est l'histoire de cette jeune femme qui reçoit une commode un petit peu voilà, intrigante finalement et qui est au centre de ce roman puisqu'elle va délivrer les secrets le temps d'une nuit avec ses 9 tiroirs de couleurs et finalement dérouler toute cette vie, la vie de Rita. Alors on dit Abuela, hein, c'est-à-dire la grand-mère. Quoi. Toi, dans la famille, vous appelez les grand-mères depuis toujours Abuela et toi, voilà, toutes les grand-mères s'appelle Abuela.
Alors, dans la famille de la commode, moi, pas chez moi, non. Chez moi, je leur donnais plein de petits noms d'amour, mais ça pouvait m'arriver de les appeler Abuela, mais c'était pas, pas le nom. Mais je sais qu'en Espagne, c'était souvent le cas. Voilà, ma grand-mère appelait sa grand-mère l'Abuela, comme si elle parlait de Dieu. Quand elle parlait de l'Abuela, ils vous voyaient leurs grands-parents. Enfin, il y avait quelque chose d'assez fort.
Alors, le roman vient d'un premier essai ou en tout cas d'une écriture dans un autre format plutôt proche de la nouvelle et qui a été enrichi ensuite pour aboutir à ce roman. C'est-à-dire, tu t'es pas lancé directement dans l'écriture du roman, Olivia Ruiz ?
Non, en fait, c'est mon amie devenue depuis mon agente qui, il y a 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans, était éditrice chez Flammarion. Elle m'avait sollicité pour écrire des nouvelles parce que j'avais un premier un premier bouquin, un beau livre, comme on dit, photos et mini-nouvelles qui étaient parues chez Textuel. Et elle avait aimé, elle m'avait mise au boulot sur des nouvelles. Et puis, je repartais en tournée, voilà, donc ça s'est arrêté un petit peu comme ça, en se disant on reprendra un jour, et puis pour moi, la musique a pris le pas sur presque tout le reste. Et elle est retombée sur cette nouvelle, et puis voilà, elle m'a appelée, elle m'a dit là, je sais que tu as du temps en ce moment, et j'ai relu tes nouvelles, et celle-là, c'est ton roman, c'est une évidence, regarde, tout est là, voilà, c'est une commode, tes tiroirs, c'est, voilà, c'est... Tout est là, il n'y a plus qu'à écrire ce qui manque, et voilà. Et là, je me suis mise au boulot, puis j'ai baissé les bras de longues périodes où elle me harcelait en me disant « Relis ce que t'as fait, c'est génial, allez ma guerrière !» Alors je reprenais un peu, puis je lâchais tout à nouveau parce que je me décourageais. Enfin voilà, ça a été un petit jeu du chat et de la souris pendant quelques mois jusqu'à ce que, ben voilà, qu'elle l'envoie. Ouais.
Et qui est de belles réactions, puisque j'ai bien vu que il y avait beaucoup de propositions. C'est-à-dire qu'on voit vite quand on est éditeur si le bouquin est une réussite ou pas. On va pas se mentir, les gens ont l'habitude de lire dans tous les sens des manuscrits, etc. Et je pense qu'immédiatement tu as eu un enthousiasme assez une forme d'unanimité. Il faut toujours se méfier de l'unanimité, évidemment. Hein, mais en tout cas, il y a eu de belles réactions qui ont voilà abouti à la sortie de ce premier roman. Ça c'est cool parce qu'il vaut mieux que ça se passe comme ça quand même à choisir. Dis-moi mon Olivier, nous allons avoir Christelle de Narbonne qui te pose une question sur le 0826 300 300. Bonsoir Christelle.
Oui, bonsoir Olivier, bonsoir Yvan.
Bonsoir Christelle. Christelle, en fait, pas Christelle, oui. Christelle, pardon. Avec un E à la fin?
Deux L, oui.
Ah, deux L, d'accord. Bon, ça c'est clair, je préfère que ce soit clair. Moi. D'accord.
Donc moi je m'appelle Christelle, j'ai un prénom bien français. Mais je suis vigneronne, en fait, dans le Minervois, pas très loin de, en fait, chez Olivia, justement. Et je suis fille d'immigrés, fille d'Espagnol. Mes parents sont espagnols. Sont arrivés en France parce qu'ils crevaient la dalle, en fait, à l'époque de Franco. Ils sont arrivés avec mon grand frère. Et
c'est quel âge tu as, du coup?
Je suis 78, ouais, je vais faire 42 ans cette année.
D'accord.
J'ai compris l'inverse. D'accord, ok. Merci.
Non, j'ai pas 78 ans.
Hein. D'abord, c'est un peu jeune quand même. D'accord, oui, un petit peu, pardon.
Alors, Christelle.
Donc, je suis presque comme la troisième génération, comme tu disais tout à l'heure, Olivia. Parce qu'en fait, je suis arrivée 15 ans après mon premier frère qui est arrivé d'Espagne avec mes parents, immigrés. Et tout était tabou, quoi, en fait, parce que mes parents ont 86 ans, donc je suis un peu comme une petite fille qui suis née tardivement. Et, oui. Et en fait, il a fallu qu'il y ait un livre, il y a deux ans, que je tombe sur un livre qui est sorti ici sur un immigré espagnol, que j'ai offert à mon père. Hein. Et en fait, ce livre, j'essaye pas trop de m'étaler, en fait, quand j'ai voulu lui offrir qui libère la parole. Ça a fait pleurer toute sa famille, mes frères, parce qu'ils l'ont lu, ma sœur, mes parents. Et mon père n'a pas pu le lire parce qu'il m'a dit « c'est mon histoire, je peux pas ». Et c'est difficile. Hein. Et à partir de ça, ça a délié des langues et on a su en fait ce qu'il a vécu pendant la guerre. Les attaques, tout ce qu'il a vécu pendant... Et en fait, il n'en avait jamais parlé. J'ai attendu 40 ans pour l'entendre parler, le pauvre, et l'entendre pleurer. Et moi, je suis revenue aux sources parce qu'il est venu travailler, parce qu'il travaillait à la terre. Et je t'ai détesté ça. Je suis revenue aux sources, travailler à la terre, parce que inconsciemment, je travaillais avec mon mari maintenant dans les vignes, ce qu'il faisait. Et en fait, ce livre, moi, ça a débloqué beaucoup dans ma famille, parce qu'on nous a raconté.
On a envie de savoir ce que c'est le livre maintenant, Christelle.
Oui, ouais, le tease a été très, très efficace. On veut savoir ce que c'est, Christelle.
Le long chemin de
Joachim l'Espagnol.
De Joachim, voilà, c'est ça.
Oh, et... c'est magnifique. Écoute,
voilà, il est magnifique.
Je l'ai lu pendant le confinement parce que on me l'avait offert sur un concert et du coup il était dans la maison que j'ai rejoint et ça, j'ai trouvé ça aussi vraiment très 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 joli et je me suis dit que j'allais en parler moi aussi. C'est chouette que ça ait débloqué des choses. Je comprends.
Voilà, et j'ai trouvé ce livre intense.
Alors Yvan, ce livre, c'est un monsieur qui a trouvé un carnet, une espèce de journal écrit par un Espagnol pendant la guerre d'Espagne, et, et qui, en fait, parle à cet homme. Donc, au travers de la longue lettre qu'il écrit à Joachim l'Espagnol, il va raconter l'histoire qu'il a découverte dans ce carnet, avec ses réactions et ses réponses, lui, des années après les événements, et probablement des années après la mort de Joachim l'Espagnol. Donc c'est très très
c'est en plus
une,
parce
une
que...
forme narrative qui est super intéressante,
qui est touchante.
On voit tout le, on voit tout le sens, pardon, de ces écritures, de ce que, à quoi sert, voilà, de faire des chansons. On pourrait citer Rodagil avec Utile, mais quand on entend ça, ces retours et ces déblocages ou ces choses qui peuvent se révéler grâce à un bouquin, grâce à une chanson, grâce à un film, alors la démarche artistique prend toute sa dimension.
Et surtout allégé, comme on dit, pour les générations futures. Moi, depuis que j'ai 12 ans, je suis hantée par cette phrase qui dit « savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ». Je ne sais même pas où je l'ai trouvée un jour quand j'étais ado, mais cette phrase reste quelque chose qui me hante, et c'est pas, je me dis que ce n'est pas un hasard, et que là où ça devient nécessaire, cette prise de parole, indépendamment de nos familles et du plaisir qu'on a, nous, à connaître quel est le cheminement qui nous a amené à être qui on est, il y a aussi le fait que ce soit un sacré miroir de l'actualité, cette histoire-là, et que les souffrances qu'ont vécues nos grands-parents, nos parents, les parents de nos potes...
D'autres les vivent, évidemment, encore aujourd'hui.
Voilà, d'autres les vivent aujourd'hui avec la même passivité, avec la même indifférence, avec le même rejet. Et en ça, ça donne encore plus sens au fait de parler, parce que c'est vrai que cette intimité-là, qui est celle de Christelle, et qui est la mienne, et qui est celle d'une personne sur deux en Occitanie, et qui est quelque chose d'intime comme une religion, finalement, cet exil qu'on porte en nous. Voilà, à partir du moment où tout d'un coup, il raconte aussi les stigmates que peuvent laisser de tels voyages et de tels accueils sur une population, ils sont nécessaires parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de rappeler cet état de fait pour ceux qui arrivent et qu'on n'accueille pas et qu'on ne sait pas accueillir, et pire encore, que certains rejettent.
Absolument, oui, c'est vrai. C'est très vrai. C'est bien de parler de ça ce soir. Et merci Christelle d'avoir fait le 0826 300 300 pour nous parler et pour parler à Olivia. C'est un joli moment. Et merci.
Et du coup, juste une petite question.
Très rapide, parce que alors on fait une petite pause. Je voulais faire une petite. On est dans le sud, mais les Parisiens qui nous écoutent sur 99,9 savent quand même que des fois on sait qu'il y a de la pub et qu'on est aussi très organisé, très rigoureux dans le sud. On revient juste après ça. Ne bougez pas.
Loft. Musique.
Loft Musique.
Sud Radio.
Yvan Cugius.
Et merci d'être avec nous sur Sud Radio, en direct comme tous les soirs, avec le piano sous les doigts, et vous qui êtes là pour le direct du 20h, c'est la grande messe du 20h, hein, le Loft Music sur Sud Radio. Demain, enfin lundi, nous aurons Yves Duteil, mardi Oshi, mercredi Superbus, jeudi Gilbert Montagnier, etc., etc. Tout ce beau monde en direct pour échanger avec vous. Alors, on est avec Olivia Ruiz, dans quelques secondes Guillaume Grand arrive, et Christelle de Narbonne posait une question à Olivia. J'étais obligé de vous interrompre un petit peu, je suis désolé, contrainte et publicité, il faut gagner sa vie, on sait comment c'est. Christelle, alors la question pour Olivia.
Juste par rapport à ça, je voulais savoir si, Olivia, est-ce que vous êtes toujours en quête avec votre histoire, avec cette histoire, ou bien vous êtes-vous sereine?
Oh non, je pense que plus je fais des choses en lien avec cette histoire-là, plus je me rapproche de moi, et en même temps plus je m'éloigne du problème en le regardant comme quelque chose qui est de la fiction et qui ne m'appartient pas, donc quelque chose de plus léger. Et en même temps, j'ai l'impression que non, que je suis loin d'être arrivée, que j'ai encore besoin de comprendre plein de choses. Moi, j'ai pas la chance de pouvoir libérer les paroles, puisque ceux qui restent ont plus la tête en capacité de me répondre, et que ceux qui sont partis avec leur bouche cousue, qui est le nom de spectacle qui aurait dû démarrer en mars, bouche cousue au pluriel. Donc voilà, des réponses, j'aurais probablement du mal à en trouver, même si un de mes cousins doit me raconter une partie de l'histoire familiale, mais en tout cas, le simple fait de parler de ce peuple que je sens vivre et vibrer dans chaque millilitre de mon sang, me rend heureuse, me rend fière de moi, parce que je suis contente de mettre en place le devoir de mémoire dont je me sens porteuse malgré moi. Donc on va dire que c'est un chemin, comme Joachim l'Espagnol.
Ouais. C'est ça.
Un chemin, je suis dessus, mais est-ce qu'il a une fin? Je ne parierais pas.
Et puis Christelle, je sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire, mais cette écriture dont on parle dans des déclinaisons différentes est tellement importante et tellement fondamentale justement pour s'apaiser, pour mettre des choses clairement, pour les comprendre, pour les analyser.
C'est ce que je fais. Par rapport à cet héritage familial, moi j'écris beaucoup.
Il faut absolument.
Au moins dans ma famille, ça nous aide. Voilà.
Christelle, c'est super. Achetez une jolie commode, peignez-la de toutes les couleurs et puis un jour vous...
Voilà.
Vous laisserez à vos enfants quelques écrits.
Avec 9 tiroirs.
C'est ce qu'il faut faire, voilà.
Avec des objets enfantés pour vous.
Ouais.
Et puis c'est tout ce qui nous reste, quelque part.
C'est tout ce qui nous reste, c'est ça.
Et puis le 3 juin, vous lirez le roman d'Olivia Ruiz, La commode de tiroir de couleur. Et ça sort chez Jean-Claude Latte. Merci d'être passée, Christelle de Narbonne.
Merci, avec plaisir. Merci
et la bise à Narbonne, à Marseillette, toutes les grandes villes de l'Occitanie. Narbonne qui est la banlieue. Narbonne qui est la banlieue de Marseillette, c'est bien connu. Merci mon Olivia. On aurait pu dire un petit mot juste très rapide de Toan sort un album Madre Mediterranea. On le recevra, Toan. Mais dis-moi un petit quelque chose sur lui.
Écoute, c'est un album que j'ai l'honneur de produire. Ce ne sont que des portraits de femmes. Donc, c'est beau de voir un rappeur qui s'exprime par la voix des femmes. On a une jeune Libyenne qu'il a rencontrée dans le cadre de son boulot de psychologue auprès de mineurs isolés, longtemps auprès de migrants. Ça aussi, c'est pas un hasard. Hein. Et c'est un album magnifique, produit par Vincha. Ouais. Avec une poésie, une authenticité, quelque chose d'à la fois hyper urbain et hyper rural à la fois. C'est le bon album d'après confinement parce qu'il s'attarde sur ceux qu'on oublie de regarder avec amour et bienveillance, sur celles d'ailleurs, pas sur ceux. Et que en plus, ça donne envie de danser, ça a les couleurs du sud, du soleil et de l'Afrique du Nord et de l'Espagne. Donc voilà, c'est un disque qui fait du bien. C'est Toan, T-O-A-N, Madre Méditerranée.
On en écoute juste un petit extrait, mais on le recevra, Toan.
Alors ça, c'est l'album précédent, je crois. Hein. Voilà.
On appelle la femme de la rave, l'Espagnol caminant sur les cantons arides. Elle l'aimait comme la mer aime la rade. La rave, on l'appelait...
Non, c'est bien celui-là, hein, Olivia.
Non, c'est bien l'extrait du dernier. Ça s'appelle La femme de la rave.
Parfait. La femme de la rave.
Une petite espagnole... Regardez de travers, évidemment, j'en featuring.
C'est incroyable, la coïncidence, c'est des trucs.
C'est fait maison, il a une choriste gratos à disposition, je vois pas pourquoi il s'en passe.
On est bien d'accord, on le recevra, le frangin Toan, parce qu'il est talentueux, il est plein d'humilité,
il le mérite, grave. 100% des bénéfices de son album sont reversés à SOS Méditerranée. Donc,
absolument. Une ONG, hein, c'est ça. Merci, mon Olivier, à notre passé. La bise à tout le monde, la bise à Nino, à tout le monde. Voilà,
tous les autres qui sont. Un énorme foutou à tous les sudistes que j'aime tant et qui me rendent si fière d'être leader.
Joli.
Salut,
merci, mon Olivier.
Bonne soirée. Bye
à
bye.
Tout bientôt. À tout bientôt. Merci d'être passé dans le Loft Music. Olivia Ruiz, je vous rappelle, lundi Yves Duteil, mardi Oshi, mercredi Superbus, jeudi Gilbert Montagnier et dans quelques secondes Guillaume Grand. J'aime trop les gens, c'est son grand retour. L'album est sorti le 22 mai dernier. Un roman aussi s'annonce. Guillaume Grand, vous le connaissiez, le grand public, avec Toi et moi. Et bien voilà, son grand retour avec J'aime trop les gens. Et quand on fait un grand retour, et bien on vient dans le Loft Music.
Je crois que je me suis trompé. En fait, j'aime trop les gens. Même s'ils me fatiguent de temps en temps. T'enlèveras pas le diable dedans. Toujours le pire de mes enfants. On fait pas la même vie. On fait pas la même fête.
pas les pieds sur la même terre. Je vois tes défauts, j'adore tes gestes. T'as peur de moi, et moi je me déteste. Et même si j'ai la haine, je voudrais vous embrasser, vous serrer fort, vous faire rêver. Pour tous les autres qui ne sont pas nés, nous on est là, autant s'aimer. Je te laisse compter les jours qui nous restent sur la terre, mais t'attends tranquillement de redevenir poussière. Pourtant je suis le pire, j'arrête pas de tout gâcher. De la plus douce parole jusqu'au baiser volé, je trouve pas les bons mots. Je vis pas ce que je rêve non plus, j'en sais rien. Combien de temps je vais rester si le monde est perdu? Mais c'est bien, on est deux, alors je pars avec lui. Et même si j'ai la haine, je voudrais vous embrasser, vous serrer fort, vous faire rêver. Pour tous les autres qui ne sont pas nés, nous on est là, autant s'aimer. Si je te préfère à toi, si je voulais toutes tes potes, si je te faisais un gamin, ou si on en faisait trois autres. Si là-haut il y a du monde, si ma mère elle est folle, si les larmes des enfants coulent dans la même rivière, si les vents ont choisi, si les vents ont choisi de souffler dans ce sens. Peut-être qu'il faut se taire, se dire qu'on a de la chance de respirer encore, de respirer encore. Le peu d'air qui nous reste, c'est la vie qui veut ça, c'est la vie qui nous blesse. On oublie la tendresse, on oublie la tendresse. Et même si j'ai la haine, je voudrais vous embrasser, vous serrer fort, vous faire rêver. Pour tous les autres qui ne sont pas nés, nous on est là, autant s'aimer. Et même si j'ai la haine, je voudrais vous embrasser, vous serrer fort, vous faire rêver. Pour tous les autres qui ne sont pas nés, nous on est là, autant s'aimer.
J'aime trop les gens, Guillaume Grand, le retour de Guillaume Grand dans le Loft Music et partout d'ailleurs, puisque mon cher Guillaume Grand, après 5 ans sans contrat en maison de disque, t'as signé chez les amis de Polydor pour 3 albums. Eh bien, bravo Guillaume, bienvenue. En même temps, c'est jamais un vrai retour. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Content de te retrouver. Bah, c'est jamais un retour parce que t'as pas arrêté en fait. C'est toujours, tu sais, dans ce métier, on dit ouais, il revient, mais il n'était pas parti en même temps. Hein, Guillaume Grand, il continue à faire des chansons.
J'ai pas arrêté. J'ai travaillé à la maison. J'étais pas devant de la scène, mais j'ai travaillé.
Ouais. On remet ce titre, un petit bout de ce titre, ce hook que tu as, Thibaut, sur Toi et moi, parce que ça a été un succès monumental.
C'est juste toi et moi près d'ici. Là-bas, sans règle, digne et sans foi. Quand tu veux.
Toi et moi, Guillaume Grand qui revient avec ce J'aime trop les gens. S'enferme, mon Guillaume, évidemment, un titre comme ça, la puissance qu'il a eue, c'est compliqué après de rebondir. On dit ça à chaque fois, mais c'est éternellement vrai.
Ouais, mais j'ai beaucoup de chance que ça marche très bien, ça. Que Toi et moi marche très bien. Et après, s'il n'y avait pas cette chanson, j'aurais pas eu un peu la suite de ce que j'ai maintenant, quoi.
Ouais, mais et comment ça se fait qu'il y a eu 5 ans comme ça avant de re-signer chez une maison de disques? Tu sais, souvent, quand il y a des espaces comme ça, un peu de la longueur, du délai, c'est compliqué de revenir. Moi, j'ai plein de témoignages de gens qui, voilà, quand ils n'ont pas rebondi, tu vois, genre dans les 6 mois, dans l'année après, 5 ans après, c'est compliqué. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, en fait, toi et moi, ça a bien marché. Après, ça a été compliqué de vendre le deuxième album. Ça s'est pas même passé pour le deuxième, quoi. Donc, du coup, c'est un peu dur. Si le premier marche et qu'après le deuxième, tu te plantes ou n'importe là, faut le quitter. Mais après, c'est compliqué de revenir, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu es très influencé en même temps par la folk, par la chanson française traditionnelle, Ferré, Brel, voilà. Et tu es En même temps, dans cette expression de ton intérieur, si je puis dire, de ce que tu penses, de tes émotions, comme plein de chanteurs, mais peut-être encore plus que les autres, toi, non ?
Bah, je pense pas que tu sois plus touché, mais genre, j'aurais beaucoup de mal à chanter les chansons des autres.
Oui, pourquoi ? Pourquoi, Guillaume ?
Ça sortirait pas pareil.
Ouais.
Genre, c'est comme un propos qui ne serait pas le tien, il aurait moins de vérité. Donc, je serais très mauvais interprète. Je ne dis pas que je suis bon interprète. Hein. Ouais. Je pourrais juste chanter mes chansons. J'aurais du mal à interpréter les chansons des autres.
Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'une chanson, par exemple, est finie, qu'elle est prête à être chantée, Guillaume ?
Quand on sait qu'elle est finie ?
Ouais, qu'on se dit, ça y est, là, je peux la chanter, c'est bon, j'ai plus qu'à travailler l'interprétation, la partie écriture, elle est finie, je ne reviens plus dessus, je suis sûr de moi, ou en tout cas, je mets un point final et je passe à l'interprétation.
Je ne saurais pas te dire à quel moment c'est, mais quand il arrive ce moment, tu es content. Parce que ça veut dire que tu as bien bossé, que tu t'es bien embêté pour trouver les bons mots.
Ouais.
Et après, ça va arriver sur un couplet ou sur un refrain où tu vas te dire, c'est bon maintenant. Là, vas-y, je peux chanter comme ça, et du coup, tu vas interpréter, du coup, ça va te donner les autres trucs. Mais quand tu sais qu'elle est finie, moi, je sais qu'elle est finie quand c'est à la fin au studio.
Oui, c'est ça. Dis-moi, mon Guillaume Grand, tu habites toujours du côté de la Chantique ? Comment,
oui.
Pardon ?
À Bénès.
À Bénès-Marraine, dans les Landes. Bénès-Marraine dans les Landes, on embrasse tout le coin parce qu'il y a Cabreton, il y a Labène, il y a plein de petits villages. Ossegor, ouais, voilà, Bayonne, pas très loin. Et dis donc, t'es pas dans le plus moche endroit de France, mon Guillaume Grand. Comme Tom Fragé qui est par là aussi. Il y a plein de gens qui sont dans le coin.
Côté, ouais.
On les embrasse, Tom Fragé, Lady Melody. Vous voyez, il y a une. Comme ça, tu es quelqu'un qui fréquente les collègues, si je puis dire, un chanteur, Guillaume Grand, toi, ou tu es plutôt solitaire ?
Comme on se connaît depuis la Guadeloupe, parce que j'habitais en Guadeloupe aussi quand j'étais petit. Ouais. Donc, comme on se connaît depuis longtemps, ouais. Et puis surtout, on est voisins.
C'est important d'avoir, parce que c'est quand même un métier très individuel, donc il ne faut pas se faire piéger par l'enfermement, quoi. Surtout, tiens, enfermement, confinement. Comment tu l'as vécu, toi, le confinement ? Qu'est-ce que tu as fait ?
Alors moi, ça ne m'a pas fait trop rire. Hein. Je suis assez actif. Et en fait, le premier mois, c'était compliqué. Après, c'est passé, puis de toute façon, c'était pour la bonne cause. Et après, en fait, j'ai réussi quand même à me casser la jambe le 11 mai.
Tu t'es cassé la jambe le 11 mai ?
Le 11 mai, ouais, le jour du confinement.
Ah ouais, toi, t'es comme ça, toi. T'as voulu fêter le truc, en fait, et t'as fait des excès, t'es cassé la jambe. Voilà, c'est ça le truc.
J'ai 45 jours de plus.
Oh merde, pardon. C'est vrai que c'est malin. Et dis-moi, mon Guillaume Grand, il y a un roman qui s'annonce. Quelle est cette idée ? Quelle est cette démarche ? Pourquoi un roman ? Pourquoi maintenant ? Et quoi comme roman ?
C'est aux éditions Plomb. C'est l'éditrice littéraire qui m'a demandé si je voulais bien faire un roman. Alors ça me fait peur. En fait c'est un peu comme les chansons. C'est pas genre il y a plein de personnages, c'est un peu genre je parle de tout, quoi.
D'accord. Parle de tout. D'accord.
Mmh. Voilà, ça, pour l'instant c'est assez vague parce que j'ai eu beaucoup de mal à le faire.
Ok, bah ça va venir. Dis-moi, mon Guillaume, t'as pas la guitare ? T'as pas un truc, là, des fois, à côté de toi, là, pour nous jouer un truc, là, nous chanter un truc comme ça, tu serais cap ? Ah bah, t'es pas parce que t'as une jambe cassée que tu peux pas jouer de guitare, Guillaume. Enfin, ça marche pas, moi, avec moi, ça.
Et vous me voyez au ralenti aussi ?
Ouais, moi, je te vois en entier. Enfin, ouais, je te vois.
Au ralenti ?
Ah non, on te voit un peu. Ah, au ralenti, non, je te vois un peu, je t'entends à peu près normalement, je pense. Bah, tu fais un petit bout de quelque chose, parce que je pense qu'une chanson entière en zoom, c'est pas le pied, tu vois. Fais-nous un petit extrait d'un truc, ce que tu veux. On va voir. Si c'est pas top le son, je te le dirai, je te ferai des signes. Vas-y. Guillaume Grand.
Je voudrais partir jusqu'à la mer, plonger sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les ombres, rester encore, rester jusqu'à saler le corps.
Ben super, super Guillaume. On entend, c'était toi et moi, c'était le débit de toi et moi. On entend, ça coupe un peu. Ouais, ça coupe un peu, mais c'est pas grave, mais Guillaume, c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète, on l'a entendu tout à l'heure, de toute façon. Ben là, c'est les moyens du bord, hein, c'est le zoom, quoi, tu vois. Puis la jambe cassée, ça arrange rien. En tout cas, merci d'être passé par le Loft Music en direct, Guillaume Grand. Je rappelle que c'est ton retour avec un roman qui s'annonce dans pas longtemps. Le single s'appelle J'aime trop les gens. Il est sorti le 22 mai dernier. Et puis gros bisous à Bénesse Marraine et aux Landes en général et à l'océan Atlantique. Tout, voilà, tout ce qui est agréable et au surf. Salut Guillaume, à bientôt. Merci mon grand. Salut. Merci d'être passé. Ciao, ciao. Salut Guillaume Grand. On va évoquer maintenant dans ce Loft Music en direct pour clôturer cette semaine la disparition de Guy Bedos. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais notre grand Jacques Pessis va nous le préciser. C'était hier. Guy Bedos, avec voilà, un membre, comment dirais-je, éminent de la famille Sud Radio. Jacques Pessis, qu'on retrouve d'ailleurs demain, hein, évidemment, dans Les Clés d'une vie. Samedi,
oui, avec la rediffusion de Guy Bedos, justement. Évidemment, que j'avais reçu il y a 3 ans.
Ouais, ouais.
Il y a 3 ans, et c'était il avait sorti un livre, il se faisait rare, il avait accepté de venir. On avait passé 1 heure, et cette heure s'est terminée, mais vraiment dans l'émotion. Parce que je lui ai rappelé des tas de souvenirs, et j'ai senti le vieil homme qui s'apprêtait à partir, parce que tous ses souvenirs revenaient en mémoire, et il n'en parlait pas vraiment, puisque ce n'était pas le genre de questions qu'on lui posait d'habitude.
Bien sûr, ce sera 13h, hein, Les Clés d'une vie. Demain, Jacques Pessis rend hommage à Guy Bedos avec la rediffusion de ce bel échange, comme tu les as dans Les Clés d'une vie, mon cher Jacques Pessis. Tu l'as rencontré, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il incarnait pour toi? Il représentait quoi, Guy Bedos?
Pour moi, il y avait 2 Guy Bedos. C'est-à-dire, j'ai connu le Guy Bedos sur scène, bien sûr, vachard, précis. Et là, il y avait une écriture, un travail fabuleux, parce que imaginez ce que c'est que de faire une revue de presse tous les jours. Quand on est sur scène, il regardait tous les journaux, il lisait entre les lignes et les détails le marquaient. Il avait 2 heures pour écrire et pour apprendre, parce que dans les années 30, les revues de presse, c'était simple, c'était facile. On faisait un texte l'après-midi, on voyait avec un pianiste qui faisait une vague musique, et on était le soir sur scène dans les cabarets avec son papier. Là, c'est différent, et ça tirait à vue, et c'était son bonheur. Il avait compris ça petit à petit, Guy Bedos, parce que quand il a commencé à faire de l'humour avec Sophie Daumier, il a déjà créé quelque chose qui n'existait pas. Et quand il a décidé d'aller plus loin, il est allé jusqu'au bout de ses idées, en un temps où c'était possible. Moi, je me souviens de son combat verbal avec Thierry Leluron. Ils se détestaient, mais mutuellement et cordialement. C'était des mots qui fusaient à la télé l'un contre l'autre. Il accusait Leluron d'être de droite, alors que lui était de gauche. Mais c'était d'une violence totale. Mais en même temps, il y avait une tristesse derrière tout ça, parce que moi, j'ai connu l'autre Guy Bedos, qui est un homme poli. Chaque fois que je l'ai rencontré depuis pas mal d'années, il a toujours été poli, respectueux, pudique. Je me souviens notamment lorsqu'il a joué Arthur Oui, on le sait peu, au théâtre de Chaillot, mis en scène par Jérôme Savary. Savary et Bedos, c'était 2 univers très différents. Savary, c'était la folie, les coups, le copain en permanence. Bedos, beaucoup plus calme, pudique. Et ce spectacle d'Arthur Oui, où jouait à peu près un mélange d'Hitler et d'Al Capone, à Chaillot, c'était fabuleux. Les critiques ont été beaucoup plus dithyrambiques que pour ces spectacles. Et finalement, ça a moins bien marché. Et je le sais parce que je jouais un spectacle dans la salle d'à côté, on était plein. Alors que lui, il y avait beaucoup moins de monde. Donc,
Jacques, en fait, il était...
On en parlait très gentiment.
Pardon, oui, il était clivant, j'ai pas l'impression qu'il était si clivant que ça, alors qu'il ne mâchait pas ses mots, il y allait, il était même dans la provocation quelquefois, mais il y avait une tendresse envers Guy Bedos, du public français dans son ensemble, j'allais dire, qui me fait dire qu'il était pas, il clivait pas tant que ça. Est-ce que c'est vrai ou pas, Jacques Pessis?
C'est-à-dire qu'en un temps où il n'y avait pas Internet et les réseaux sociaux, il lisait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. C'est très clair, c'est-à-dire que Bedos, c'est vacherie, ça amusait la droite, sauf l'extrême droite, parce que là, il tapait très fort dessus, ça amusait la gauche, même quand il tapait dessus, et Mitterrand était d'ailleurs son meilleur fan, Et il y avait toute une frange du public qui venait pour rire franchement, parce que ce que Bedos disait, personne ne le disait à côté, à part le Luron d'une façon très différente. Et c'est vrai que ça a marché pendant des années, et il a arrêté en 2013, et on en a parlé un jour ensemble. Il a arrêté parce qu'il dit, d'abord j'ai l'âge d'arrêter, et en plus je ne pourrai plus dire tout ce que je dis. C'est-à-dire, il a compris, quelques années avant tout le monde, que ce qu'il a fait ne serait plus possible aujourd'hui. Quand il fait des sketchs, mais d'une violence totale contre le racisme, aujourd'hui, ça déchaînerait les réseaux sociaux. Il ne peut plus y avoir de Bedos. On ne peut plus dire ce qu'il a dit. Il l'a compris bien avant tout le monde.
Qui s'inscrit, selon toi, Jacques Pessis, dans le sillage, dans la transmission, dans l'héritage de Guy Bedos aujourd'hui ?
Alors, d'abord, il y a eu une génération Bedos. C'est-à-dire que Bedos a tenu très longtemps grâce à une génération qui l'a suivi, à commencer par Muriel Robin. Ils ont fait ensemble un spectacle à l'Olympia qui a été un véritable triomphe. C'est-à-dire, ils s'amusaient tous les deux, à tel point que certains soirs, ce n'était pas le spectacle, c'était un numéro entre les deux où ils riaient. Donc, il y avait une véritable génération. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de Bedos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une forme d'humour. Alors, il y a deux formes d'humour. Il y a l'humour, ce qu'on appelle le stand-up, avec des propos très personnels qui font rire, qui sont écrits à la va-vite et qui durent jamais vraiment longtemps. Et puis, il y a l'humour plus long avec même son fils, Nicolas Bedos, c'est extraordinaire dans le genre, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Et je pense que, je confirme que plus personne ne pourra faire du Bedos. En plus, il y a quelqu'un qui a beaucoup fait de Bedos avec lui, c'est Dabadie. Il ne l'a pas dit au début. Les premiers sketchs comme Beaufait Paulette que tout le monde connaît,
oui, c'est Dabadie. Et il raconte d'ailleurs Dabadie qu'il a écrit ce texte, il l'a envoyé à Guy Bedos et il a découvert en regardant la télé que Bedos l'avait interprété, l'avait adopté pour la scène alors qu'il n'était même pas au courant. C'est vraiment le premier envoi que fait Dabadie comme une bouteille à la mer à Guy Bedos. C'est joli, c'est une jolie histoire.
Il était au service militaire, Dabadie. Il s'était croisé dans les coulisses des buts de Chaumont. Que Bedos appelait le couloir de la mort parce qu'il y passait son temps à courir derrière les producteurs ou les réalisateurs pour avoir des rôles qu'on ne lui donnait pas. Bedos, il a souffert au début. Il a vendu des livres porte à porte pour tenir le coup, pour manger, comme Moustaki d'ailleurs, qui avait fait la même chose. Il avait une toute petite chambrette. Il a fait une pièce à 16 ans avec Belmondo en tournée. Ça a été un bide colossal. Il est passé au Port du Salut, un cabaret. Personne ne l'a écouté. Donc, il était très malheureux de tout ça. Et il en a gardé, non pas une rancœur, mais une certitude qu'il fallait qu'il reste lui-même et pas autre chose.
Et il y a le Bedos comédien aussi, qui donne enfin, à un moment donné de sa carrière, un élan, une autre dimension. Est-ce que finalement, quand on est un humoriste et qu'on est en même temps comédien, qu'on a succès au cinéma, ça n'amène pas une autre crédibilité ? Est-ce que ça n'enfonce pas le clou de l'humoriste qu'il était, cette carrière au cinéma, en fait, et lui donne une autre dimension, Jacques Pessis ?
Alors, d'abord, il y a effectivement les humoristes qui veulent être comédiens et qui font des films, souvent qu'ils écrivent et réalisent. Soyons clairs, ça marche très peu. Je ne vais pas les citer par charité chrétienne.
Allez, un ou deux.
Mais en revanche, pour moi, Bedos, c'était encore plus comédien qu'humoriste. C'était un grand comédien. D'abord, il a commencé au conservatoire où il jouait Beckett, il jouait Shakespeare. Il a été figurant à la Comédie française. Il aurait pu faire une très, très grande carrière de comédien au théâtre. Il l'a montré d'ailleurs dans Arturo Oui, dont on en a parlé. Mais il a fait une grande carrière au cinéma parce qu'il était bien dirigé. Et c'est vrai que jouer avec des copains, ça le rassurait. Car Bedos, en privé, c'était le contraire. C'était la tribu, c'était la famille, c'était sa femme, ses enfants, la Corse, et Dabadie, Rochefort et les autres depuis ses débuts. C'était plus important que tout, mais là, il n'en parlait jamais parce qu'il y avait une pudeur. Quand Sophie Daumier, sa femme, est morte, il s'est très peu exprimé, mais ce qu'on ne sait pas, il me l'a dit un jour, c'est qu'il l'a quittée, mais elle était très malade, il ne l'a jamais abandonnée jusqu'au bout. Il a toujours été présent, et avec l'accord de sa seconde femme, il l'a aidée financièrement et moralement jusqu'au bout, et sans en parler à personne.
Oui. Qu'est-ce qu'on retient de lui ? En tout cas, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a un avant Bedos et un après Bedos, finalement ?
Alors, il y a eu un Bedos tout court, avec Bedos qui a vraiment apporté quelque chose dans l'humour, son style à lui, avec plusieurs étapes, Sophie Daumier, puis tout seul. Et l'après Bedos, je m'interroge. Je m'interroge parce que tant que les réseaux sociaux diront du mal du moindre sketch, comment on peut refaire ce qu'il a fait ? C'est impossible. Il y a les chansonniers, heureusement, avec la revue de presse de notre ami Jacques Maillot. Mais en dehors de ça, Bedos avec ses vacheries, je ne vois pas ça dans les années à venir.
La mécanique comme ça qui me revient en tête de ces improvisations est absolument singulière. Tu y faisais référence tout à l'heure quand avec ces fameuses fiches dans ces spectacles, ces one man, il faisait allumer quasiment la salle et là il improvisait tout en marchant. C'était assez fascinant de voir comment la mécanique des pas, du mouvement, nourrissait son improvisation. Ça c'était très très unique cette chose-là.
Oui, alors pour moi, c'était pas une improvisation, c'était très préparé. Il avait beaucoup travaillé avant, mais il avait réglé ça comme une improvisation. C'est-à-dire que Bedos, aujourd'hui, il écrivait ses sketchs, il pensait, et puis après il improvisait dans le public parce qu'il était capable d'improviser, mais sur des pas réglés. Vous savez, les pas au théâtre ou au music hall, c'est très important. Piaf l'a toujours raconté, c'est-à-dire qu'elle avait une façon de rentrer en scène tout droit, d'aller, de faire le tour vers le public, vers la gauche, et d'aller au micro, elle prenait son temps. Bedos, c'était la même chose. C'est pas, c'était une façon aussi de toucher le public et même de réfléchir, de savoir où il en était. C'était un truc de comédien, de grand comédien.
Ouais. Alors demain, 13h, Jacques Pessis, Les Clés d'une vie avec Guy Bedos, qui fait partie voilà, de tes beaux souvenirs, j'imagine, et que tu as croisé Guy Bedos plusieurs fois, bien évidemment. Tu me
depuis
le disais, avec des
ans,
jolis souvenirs. Avec
plusieurs dizaines de fois. Je l'ai souvent interviewé, mais je veux dire, cette dernière interview que j'ai faite me reste en mémoire parce que c'était l'émotion. J'ai senti l'émotion de cet homme, mais c'est la première fois, et peut-être parce que je lui racontais des choses qui lui rappelaient les souvenirs, c'est la première fois que j'ai senti que l'homme était vraiment, au-delà de l'humoriste, un homme pudique, plein de tendresse, et qui s'intéressait à sa famille et aux gens qu'il aimait avant tout. C'était un amoureux de la vie et un amoureux tout court.
Merci Jacques Pessis d'être passé dans le Loft Musique. Donc demain 13h sur Sud Radio, Les Clés d'une vie, rediffusion de ton entretien, mon cher Jacques, avec Guy Bedos qui nous a quittés il y a peu de temps. Et alors quelques jours après Dabadi, voilà, il y a des moments comme ça, des périodes assez terribles où ces gens comme ça qui nous ont marqués et qui avaient un âge voisin, hein, je crois qu'il était de 34, Guy Bedos et Dabadi étaient voisins dans l'âge, voilà, s'en vont en laissant un vide immense. Mais voilà, ils sont ensemble au paradis précisément, hein, puisque voilà, ouais. On ira tous au paradis.
Il y avait 4 ans de différence, 4 ans de différence, ouais, 81 ouais. ans, 85 ans, ils sont au paradis et je pense qu'ils vont encore beaucoup rire ensemble en retrouvant Rochefort et tous leurs amis.
Merci mon Jacques Pessis. Demain 13h, Les Clés d'une vie sur Sud Radio, l'entretien rediffusé entre Jacques Pessis et Guy Bedos. Salut mon Jacques Pessis, bonne soirée à toi. Demain, pas d'émission, les rediffusions des lives au Loft, également dimanche soir. Lundi, nous serons en direct avec Yves Duteil, avec Alioz, la révélation suisse de la chanson Princesse Erika. Mardi, Oshi. Mercredi, Superbus. Jeudi, Gilbert Montagnier. Merci à toute la fine équipe du Loft Music. Enzo Ramos à la programmation, Thibault à la réal et Camélia au standard. Dans quelques secondes, Didier Maistre. Toute vérité est bonne à dire sur Sud Radio. Passez un bon week-end. Rendez-vous, même heure, même endroit, lundi. Bye bye.